sais que quand j'ai écrit le fameux « Servez-vous une tasse de thé, café et tout » dans l'épisode, notre template d'épisode, j'avais écrit n'importe quelle boisson d'été alors qu'il faisait très froid et très moche, mais je me suis dit « Non mais vas-y, c'est bon, on est en avril, il faut qu'il fasse beau ». Et en fait, là où on enregistre, il est 16h et il y a un immense soleil.
Ouais.
Et effectivement, j'ai bu un petit rosé, c'est-à-dire une boisson d'été.
Ah, ça fait très été ce week-end.
C'est trop bien.
Eh bien, bienvenue sur le canapé ou le transat de Popcorn Thérapie. Servez-vous une tasse de thé, café, ou effectivement n'importe quelle boisson qui va avec ce beau temps estival, au moins au moment où on enregistre. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et alors aujourd'hui, effectivement, pas du tout de cinéma d'auteur. Je crois que, il y a quand même des films de qualité dont on va parler, hein, voilà, clairement. Mais on va aussi parler de séries à l'ancienne, puisque vous l'aurez vu dans le titre, on va prendre au pied de la lettre Popcorn Therapy et on va intellectualiser nos obsessions séries et films d'adolescentes. On va voir un petit peu pourquoi on les aimait, comment ils nous ont fait grandir, ce qu'il en reste aujourd'hui, est-ce qu'ils ont influencé la personne que l'on est, comment ils ont impacté nos vies, et puis voilà, si on le recommanderait maintenant de nos jours, comment on voit ces obsessions-là en 2024. Donc c'est parti, on va remonter le temps et on va commencer par vous dire un petit peu ce qu'on regardait quand on était adolescente, donc dans les années 90-2000. C'est ouais. Vieux. Hein.
On va dire effectivement les années 2000. Alors avant de vous dévoiler tout ça, on va poser le contexte puisque effectivement on est plus toutes jeunes.
Donc, il ne faut pas dire ça.
Pour ceux qui n'ont pas été ados dans les années 2000, à quoi ça ressemblait de regarder des films et des séries dans les années 2000 puisque oui, on va dire qu'on va couvrir notre adolescence donc à partir de 10-12 ans jusqu'à 16-17 à peu près. Donc pour nous, c'est vraiment pile poil ces années-là, ces années 2000. Donc oui, on ne fait pas plus millennials que nous. Hein, on est en plein dans cette génération-là. Et donc, c'était quoi cette époque? Donc déjà, c'est les débuts d'Internet. On commençait tout juste à avoir des ordinateurs chez nous et avoir Internet. Donc c'était avant l'époque des téléchargements ou du streaming pas très légal, hein, qui arrive plutôt à la fin des années 2000. Donc il a fallu qu'on fasse 100 pendant la première partie de notre adolescence. Pas de plateforme de streaming. C'est la période aussi avant et après l'arrivée de la TNT qui arrive en 2005. Donc, à part si on paye le câble, ce qui, en l'occurrence, c'était pas le cas chez moi, on avait assez peu de chaînes télé, donc ça influence
TF1,
forcément.
M6, voilà.
Voilà, il y avait 6 chaînes, en gros. Et donc, pour regarder des séries, forcément, ça réduit le choix aussi. On a connu les VHS et notamment la grosse pratique des enregistrements, puisque forcément, qui dit pas de streaming, pas de plateforme, seul moyen de revoir les choses qui passent à la télé, c'est de les enregistrer.
Ouais, et voilà. Alors, ce qui était horrible, c'est qu'on ne pouvait pas programmer sur les VHS. Maintenant, on peut programmer à la télé, je vais enregistrer telle émission à telle heure. Enfin, non, on a fait ça dans les années, on va dire, 2010. Maintenant, en 2020, on peut regarder les replays, c'est encore autre chose. Mais à l'époque, les VHS, c'est vrai qu'il fallait la mettre et attendre d'appuyer sur le petit bouton enregistrement pile au moment où on voulait regarder. En tout cas, moi, ma télé, c'était ça. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des lecteurs plus modernes, mais...
Ouais, je crois que notre lecteur enregistreur VHS, il était assez évolué pour qu'on puisse programmer, il me semble. Mais je suis pas
Bravo.
Sûre, mais j'ai l'impression que
t'en as de là,
je pouvais pense. Parce que je me souviens que des fois les horaires des programmes étaient pas exacts et que du coup quand on regardait la VHS, on se retrouvait avec les pubs ou alors on avait loupé les premières minutes. Enfin, c'était pas une science exacte. Mais oui, effectivement, c'était bon, c'est quelque chose que tout le monde a connu, hein, d'avoir une quantité limitée de VHS et donc de choisir qu'est-ce qu'on écrase quand on veut enregistrer.
C'est horrible. Moi, littéralement, j'avais de la chance, hein, j'avais une télé dans ma chambre, mais j'avais deux VHS. Donc, je tournais avec mes deux VHS à enregistrer ce que je voulais regarder et c'était très dur, émotionnellement, je m'en rappelle encore.
Moi, je me souviens aussi des coupures pub où il fallait avancer la cassette, du coup, jusqu'au bon moment pour relancer. Et celles qu'on regardait en boucle, on connaissait par cœur à quelle pub il fallait arrêter mettre play pour être juste au bon moment.
Et quand tu oubliais de rembobiner ta cassette et que tu commençais à enregistrer, mais à la fin de la cassette, et donc tu ratais ton enregistrement. Horrible. Quel souvenir, mais...
ouais. Donc voilà, on a connu tout ça. Alors là, les moins de 20 ans sont perplexes. Mais oui, on a connu cette époque-là. Et du coup, on a connu aussi l'avènement et l'âge d'or des DVD, quand même, ce qui a changé beaucoup de choses dans les années 2000. Et puis, ce qui va avec tout ce cadre VHS et DVD, c'est les vidéoclubs qui étaient encore assez présents.
J'adorais aller au vidéoclub.
Ouais, le vidéoclub de Fontainebleau, je pense qu'on est vidéo future.
Mais il y en a eu un à La Chapelle pendant pas longtemps.
Oui, c'est vrai.
Ça n'a pas duré longtemps. Ils vendaient même des cartes Pokémon. Je sais que j'y allais beaucoup pour acheter des cartes Pokémon aussi en même temps. J'ai ce souvenir que c'était surtout l'été parce que le vidéoclub, on y allait de temps en temps, mais comme j'avais les cours, etc., c'était pas régulier. Par contre, l'été, je m'en souviens, on y allait tous les jours. C'est vraiment, on va choisir le film pour la soirée.
Ça a été pendant quelques temps un peu une tradition du week-end où on allait choisir le samedi un film qu'on allait voir pendant le week-end. C'était un truc un peu hebdomadaire qu'on faisait quand même souvent. Et c'est comme ça que j'ai vu un des films dont je vais parler plusieurs fois, mais que je n'avais pas vu au cinéma, mais que j'ai vu quelques années après grâce au Vidéoclub. Donc ouais, ça a quand même marqué pas mal de mes découvertes, ce principe-là. Voilà, pour ce petit contexte, pour reposer un peu cette époque qui nous donne un petit coup de vieux.
Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on regardait à cette époque-là? Qu'est-ce que je regardais moi? Je vais surprendre personne. C'était pile l'époque de trois grandes sagas qui m'ont obsédée et qui me cèdent toujours aujourd'hui. Enfin, deux en tout cas, toujours aujourd'hui. Harry Potter, évidemment.
Non, c'est pas vrai.
Incroyable.
Mais j'aurais jamais deviné.
Bah oui, mais le premier est sorti en 2001 et le dernier 2011. Donc,
c'est en plein dedans. Hein.
C'est exactement cette époque-là. Le Seigneur des Anneaux aussi, 2001-2003, donc pile aussi.
C'est-à-dire que le premier Harry Potter et le premier Seigneur des Anneaux sont sortis la même année. Je n'avais jamais
fait... La même année, à quelques semaines d'intervalle. C'est incroyable. C'est arrivé en même temps. Et c'est pour ça, là, il y a quelques années, on fêtait les 20 ans de la sortie de ces deux films. Et ça a été quelque chose d'assez... Enfin, d'hyper important, quoi. D'avoir ces deux franchises de fantasy très différentes, mais qui sortent en même temps, ça a marqué beaucoup de monde, dont moi. Et puis aussi, Pirates des Caraïbes, en tout cas la première trilogie, qui est sortie entre 2003 et 2007. Donc pareil, en plein dedans. Qu'est-ce que regardait la jeune Marjo? Ces trucs-là, en boucle, littéralement.
Je m'en rappelle.
Comme c'est des films, il y a plein de choses qui vont avec. Donc, c'est l'attente des sorties des films. Guetter toutes les nouvelles dans One. Est-ce que tu te souviens de One?
Bien sûr. Quelle question.
Voilà, c'était un magazine qui sortait tous les 15 jours, je crois. Je crois que c'était deux fois par mois. Ouais. Ça accompagnait exactement nos obsessions du moment. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est One qui les entretenait ou si c'est parce que nous on était obsédés et que toute notre génération était obsédée par ces sagas-là que du coup One c'était leur unique sujet.
Non, ça je pense que c'est un peu les deux parce qu'il n'y avait pas que One, ça a été aussi cette mode. Moi je me rappelle, j'avais Série Mag, Fan 2, Star Club. C'était vraiment la mode des magazines parce qu'on n'avait pas Internet. Maintenant on va regarder sur Internet, on a les wikis, on a les Discord pour en parler, etc. À l'époque il n'y avait pas ça, donc c'était ces magazines en fait.
Ben oui, je pense que One, c'était mon favori parce qu'il parlait quasiment que de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, de Pirates des Caraïbes et de quelques séries que je regardais aussi.
Moi, c'était Série Mag.
Voilà, Série Mag, je l'ai acheté aussi, mais on parlera quand tu parleras de tes obsessions. Donc voilà, lire toutes les interviews, il y avait des petites infos making-of, ça m'intéressait beaucoup aussi. Et puis évidemment, quand il y a eu quand c'était aussi le moment où il y avait les DVD, j'ai eu les DVD de tous les films que j'ai mentionnés, les regarder en boucle, notamment les bonus. C'est là d'où de là que vient ma passion pour les making-of. Et puis aussi, je connaissais par cœur le chapitrage, parce que c'était ça la grosse avancée des DVD par rapport au VHS, c'est que on pouvait avancer par chapitre. Et ouais. Du coup, j'avais mes chapitres préférés. Et quand j'avais pas le temps de regarder tout le film, quasiment quotidiennement, je regardais mes chapitres préférés du film du moment. Donc, voilà.
Ça, il n'y a pas hein, sur Netflix, tout ça.
Non, c'est vrai qu'on ne peut pas avancer par chapitre. C'est
non,
vrai.
On peut avancer où est-ce qu'on ouais. veut. C'est plus facile aussi peut-être d'avancer que dans un DVD, mais il n'y a plus les chapitres qu'il y avait avant.
Ouais, et c'est vrai que c'était quand même marrant, c'était ce principe sympa, de chapitre.
Mais on consomme différemment. Hein. Enfin, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais que de nos jours maintenant, la jeune génération, quand je regarde les ados, ils ont plus tendance à regarder et à jeter, c'est un peu la consommation mouchoir entre guillemets, que à regarder quelque chose en boucle, ou alors ils le regardent entièrement, mais il y a plus ce décrypter des scènes, regarder vraiment par passage, etc., un contenu.
Bah, ça peut se retrouver sur YouTube avec des chaînes qui peuvent aller dans okay. l'analyse de films. Et du coup, on va regarder quelqu'un qui le fait pour nous. On
ne
va pas
ça,
le faire soi-même. Ou à moins qu'on soit nous-mêmes créateurs de contenu et qu'on le fasse. Mais bon, c'est quand même toute petite minorité par rapport à ce que c'était peut-être à l'époque. Enfin, en tout cas pour moi, mais je crois que je n'étais pas la seule à consommer comme ça mes DVD.
Non, non.
Quand même, une chose importante de manière de consommer ces trucs-là qui est très différente aujourd'hui, c'est que pour moi, la seule manière de les voir, ces contenus, c'était sur l'unique télé de la famille qui était dans le salon. J'avais pas de télé dans ma chambre, donc j'avais pas, et évidemment, pas de téléphone portable et pas d'ordinateur non plus. C'est que beaucoup plus tard que j'ai pu avoir un ordinateur, donc du coup, avoir des petits accès à d'autres choses dans ma chambre. Mais du coup, fallait prolonger ces obsessions d'autres manières, et donc j'avais pas de télé, mais j'ai toujours eu un lecteur CD, des lecteurs CD dans ma chambre. Et donc, ça a été les musiques de films que j'ai beaucoup, 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 beaucoup écoutées dans l'intimité de ma chambre, on va dire. Puisque forcément, quand j'étais pas toute seule à la maison, je pouvais pas regarder en boucle les DVD dans le salon. Et donc, ouais, c'est là aussi que mon amour pour les musiques de films s'est forgé en écoutant en boucle. En faisant des écoutes très attentives pour retrouver toutes mes scènes préférées dans les musiques de films. Donc voilà, et puis bah pour compléter quand même, à part ces trois grandes séries qui étaient vraiment en boucle, fallait quand même que je cite Star Wars, qui bah pour toi aussi je crois avait quand même une place, parce que mine de rien, l'actualité de l'époque c'était la prélogie qui est sortie entre 1999 et 2005, donc c'est vraiment aussi exactement en même temps que toutes les autres sagas que j'ai mentionnées. Et puis c'était couvert par One aussi, on avait le droit à nos petits posters d'Aiden Christensen et tout ça.
Natalie
Portman, oui évidemment. Et mais c'est vrai que comme j'ai découvert Star Wars avant, vraiment gamine, genre j'ai vu le premier, je devais avoir 5 ans, enfin les anciens, je devais avoir 5 ans. Je l'associe moins à l'adolescence, je sais pas pour toi, mais...
Moi, c'est pareil, je pense que je les ai regardés très jeunes, j'étais un peu plongée, ça a toujours été dans ma vie, l'univers Star Wars, et puis j'ai été vraiment très très fan, jeune adulte, je devais avoir 18-20 ans quand j'ai vraiment replongé dedans, donc je l'associe pas justement à mes obsessions ado. Effectivement, je les regarde avec plaisir de temps en temps, mais c'était pas obsessionnel.
Ouais. Ouais, non, je suis assez d'accord. Je ne regardais pas en boucle. J'étais très contente quand les films sortaient. Je revoyais très souvent les 4, 5, 6. Et j'écoutais beaucoup la musique, parce que mon père m'avait filé, il avait la musique du Retour du Jedi en petite cassette, cassette audio. Et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de mon côté. Voilà. Et donc, pour finir sur des obsessions peut-être un peu plus ponctuelles, mais qui m'ont beaucoup marquée et qui influencent mes goûts d'aujourd'hui, je pense aussi, je ne pouvais pas ne pas mentionner La Momie, qui est sortie en 99, mais je pense que j'ai vu quelques années plus tard, justement. C'est probablement un film qu'on a emprunté au Vidéoclub et que après j'ai revu dès que j'en avais l'occasion à la télé quand il passait, ou de réemprunter au Vidéoclub. Donc La Momie, évidemment, je pense, film qui a marqué beaucoup d'entre nous. En plus, j'avais mon obsession pour l'Égypte ancienne qui n'arrangeait rien, enfin, qui était parfaite du coup pour ce film. Et Chevalier, film que je mentionne dès que j'en ai l'occasion, mais Chevalier qui est sorti en 2000, que j'ai vu au cinéma et que j'ai revu dès que j'en avais l'occasion aussi, jusqu'à ce qu'on achète le DVD. Mais ouais, Chevalier, c'est aussi un film très très important pour moi, qui reste mes films cultes, quoi. Et toi alors?
Moi, niveau film, je te rejoins sur La Momie, que j'ai énormément regardé. Vraiment, j'étais complètement accro. On en reparlera après, mais je connaissais effectivement les dialogues par cœur. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce que c'est sur Prime en ce moment. Et je me suis dit, waouh, c'est fou, parce que les dialogues, je pouvais prédire ce qu'ils allaient dire. Et je me suis dit, ouais, je l'ai vraiment trop regardé, ce film. Et j'ajouterais peut-être Coyote Girl, qui est sorti en 2000, et Fashion Victim, qui est sorti en 2002. C'est pas des films où je me disais ce film est génial, mais c'est vraiment des films que j'ai regardés un million de fois. Donc voilà, j'étais obligée de les citer, et puis j'en reparlerai un petit peu plus après. Je pense qu'aujourd'hui, je vais surtout parler de séries, parce que j'ai pas vraiment changé pour ça. Moi, j'ai toujours été une série addict, hein, je m'en cache pas, vous l'avez compris dans Popcorn Therapy. Actuellement, je suis quand même... Je regarde quand même beaucoup de films, là un peu moins, mais j'ai tendance à aller quand même beaucoup au cinéma. Mais c'est vrai qu'adolescente, nous on vient de la campagne, on en a déjà parlé dans un des épisodes, mais on vient de la campagne, c'est-à-dire que le cinéma il est à 30 minutes en voiture. Donc adolescente, on ne conduisait pas, donc il fallait que quelqu'un nous emmène au cinéma. Donc soit il fallait qu'on aille voir un film qui plaisait aussi à nos parents, soit il fallait qu'ils nous emmènent, qu'ils aillent faire autre chose et puis qu'ils viennent nous chercher après. Donc c'est vrai que je pense que ça n'a pas aidé pour moi pour avoir vraiment des films. J'ai été voir hein, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux 3, j'ai même été le voir au Grand Rex en avant-première. Donc c'était super chouette, mais voilà, ça ne m'a pas, je pense, aidé à avoir de plus en plus de films.
Le troisième Seigneur des Anneaux, je crois qu'on l'avait vu ensemble à Carré-Sénart.
Peut-être que j'avais été le revoir parce que je me suis endormie au... c'est la honte, mais je me suis endormie au Grand Rex pendant l'avant-première. Parce que... comme tu l'as dit, hein, il est sorti en 2003, donc on avait 13 ans. Et je ne parlais pas anglais à 13 ans, et donc c'était en anglais sous-titré français. Et il était très tard, je crois que l'avant-première était à minuit, parce que c'était c'était le jour à partir duquel on pouvait faire l'avant-première. Donc le Grand Rex l'avait fait à minuit. Donc une gamine de 13 ans, à minuit, avec un film en anglais sous-titré français... voilà, en plus j'avais un grand devant moi et je me souviens que je voyais pas tous les sous-titres, je devais basculer un peu pour tout lire. Donc je me suis endormie et je me rappelle effectivement qu'on a été le voir à Carré-Sénart après ensemble. Voilà, trop marrant. Mais voilà, du coup forcément on allait moins au cinéma, donc j'étais vraiment très série. Et comme j'ai dit, moi j'avais la chance d'avoir une télé dans ma chambre, donc je pouvais regarder toutes les séries que je voulais, un peu comme je voulais. Voilà, donc ça c'était assez pratique. Et alors ma série, je pense que j'en ai déjà parlé, mais préférée adolescente, dont j'étais mais totalement accro, complètement addict. J'avais des posters partout sur mes murs, j'achetais tous les magazines qui en parlaient, j'enregistrais tous les épisodes chaque semaine sur des cassettes VHS et je les regardais en boucle jusqu'à la semaine prochaine où je devais écraser pour réenregistrer ceux d'après que je regardais mais que je... voilà. C'est Roswell. Roswell qui parle vous vous doutez hein, du crash de Roswell aux États-Unis, donc des histoires d'amour avec des extraterrestres et des humains. C'était totalement ma cam. J'ai même acheté donc les DVD dès qu'ils sont sortis, donc je les ai encore et je les regarde de temps en temps. Là je me suis refait Roswell il y a quelques mois je crois, mais j'ai pas mis les DVD, c'est sur 6play. Donc voilà, ceux qui veulent regarder Roswell, vous pouvez aller voir sur 6play, c'est gratuit, il y a les 3 saisons. Voilà, je pense que s'il y a une seule série, c'est celle qu'il faut que je m'en souvienne.
Du coup, j'ai été curieuse de voir la date exacte de Roswell. Je me suis dit, mais c'est pas si vieux que ça. Mais en fait, c'est parce que ça a été diffusé en France plusieurs années après la diffusion US. Parce qu'apparemment, c'est genre 99-2003.
Mais je crois que ça a été diffusé après, ouais.
Oui, bah oui, parce que ça arrive genre M6 à partir de... dans le cadre de la trilogie du samedi dont on va reparler. Entre 2001 et 2004.
Ouais, donc j'avais 11-14 ans.
Oui, non,
ans,
si,
quoi.
C'était quand même c'est assez ça. Proche de la
ouais,
sortie.
Ça va, ça va. Ouais, ouais. Sur la trilogie du samedi, ça passait en troisième partie, donc ça passait très tard. C'est pour ça que généralement j'enregistrais parce que je regardais pas. J'avais vu la télé dans ma chambre, mais j'étais quand même raisonnable. Hein. Mes parents me faisaient confiance et donc j'enregistrais, j'essayais de tenir. Je regardais toujours le premier épisode. Après, le deuxième épisode, je regardais généralement la moitié, mais c'était surtout des séries que j'aimais pas trop, genre Caméléon.
Ouais, mais c'était ça le problème de la trilogie du samedi, parce que moi je sais que c'était, bah, c'était le petit rituel, hein, enfin, c'était ma soirée, parce qu'il y avait une autre série en première partie dont on va parler juste après. Mais du coup, on regardait les premières, la première du coup de la trilogie, parce que la trilogie, c'était, il y avait trois séries qui s'enchaînaient. Il y avait deux épisodes par série, je crois.
Trois. Un épisode par série.
Un seul ? Ou alors, parce que j'ai l'impression qu'il y avait souvent une rediffusion, ou alors c'était, ça dépendait des époques, où il y avait genre une rediffusion d'un ancien après le nouveau, je sais plus, enfin il me semblait qu'il y avait deux épisodes.
Je sais plus, moi j'aurais dit que un, parce que ça faisait de 21h à 22, de 22 à 23 et de 23 à minuit. À peu près avec les pubs, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je sais plus.
Oui, c'est... Non, c'est de ça, parce que deux, ça fait beaucoup.
Ça faisait beaucoup,
Mais du coup, en général, on regardait la première série, ça m'arrivait de regarder la deuxième, même si en général, pareil, elle m'intéressait
c'était
moins.
C'était pas terrible.
Ouais, c'est le Caméléon, c'était sympa, bon, mais bon, c'était quand même pas... Mais du coup, j'arrivais jamais... Enfin, j'ai jamais regardé Roswell
Moi, direct, généralement, soit je regardais le début et je m'endormais devant parce que je commençais à être trop fatiguée. Enfin, clairement, un enfant de 13 ans à minuit... Enfin, je sais que maintenant, quand je demande à mes élèves, ils se couchent hyper tard, mais je trouve ça hallucinant. Enfin, moi, je dormais à cette heure-là. Donc, je regardais généralement le début, mais c'était vraiment pour enregistrer que je regardais après. Mais non, bah il y avait d'autres séries qui passaient d'ailleurs dans la trilogie du samedi, donc j'étais totalement accro, hein, il faut que j'en parle aussi. C'est Smallville déjà.
Ouais, ça moi aussi, je l'ai eu.
Ah ouais.
Ça, c'était en premier. C'était en premier dans la trilogie du samedi.
C'est vrai. Et Dark Angel.
Dark Angel, je l'ai regardé aussi. Je pense que ça devait être en deuxième.
Je pense que ça devait être en deuxième, parce que c'est en deuxième, ils mettaient aussi des séries où il y a eu que une, deux ou trois, enfin des peu de saisons qui où c'était pas. Donc c'est peut-être en deuxième ou en troisième, mais.
Mais j'ai pas tout vu Dark Angel or Smallville, bah je suis pas allée jusqu'au bout, mais les premières saisons j'en ratais aucun, quoi.
Ouais, alors que moi Dark Angel j'ai aussi les DVD. Ouais, j'étais bien fan. Smallville j'avais pas les DVD parce qu'il y avait trop de saisons et bon ça commençait à faire un budget, hein, parce que c'était pas donné non plus les DVD. Et mais je me suis refait récemment la série entière puisqu'elle est disponible, je crois que c'est sur Prime aussi.
C'est sur Prime, ouais.
Ouais, toutes les séries de nos adolescents sont sur Prime. Alors, il n'y a pas Dark Angel, je pense que ça n'a pas tellement marché, qu'ils n'ont pas dû acheter les droits. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de vieilles séries comme ça, de nos années, quoi, des années 2000, qui sont sur Prime. Donc, c'est très marrant.
Donc, Smallville, c'est de 2003 à 2008 dans la trilogie du samedi. Donc, c'était
ouais,
long,
c'est ça, 13-18 ans. Ouais.
C'est pour ça, j'ai pas vu les derniers parce que je crois qu'on regardait plus.
Bah non, en fait, j'ai pas vu les derniers parce qu'après, je suis partie en internat.
Bah oui,
quand j'ai eu 16 ans.
J'avais plus de télé. Déjà.
Bah, j'avais plus de télé non plus et il y avait pas de. Ouais, il fallait télécharger les épisodes, mais j'avais pas. En internat, on n'avait pas internet. Donc bon, du coup, j'avais arrêté et j'ai repris qu'après. J'ai repris quand j'avais une vingtaine d'années. Mais les premières saisons, qu'est-ce que je les ai poncées. Je les ai vues et revues. Mais c'était aussi parce qu'on avait une copine qui était fan à l'époque et qui avait les DVD, donc j'allais regarder chez elle.
C'est vrai. Enfin, qui était fan surtout de l'acteur, de Tom Welling.
Bah, oui, de Tom Welling. mais Tom Welling était très beau. Et maintenant, quand je regarde la série, je me dis, mais comment on a pu croire que c'était un adolescent lycéen quand tu vois Tom Welling?
Tu sais que c'est resté dans parce que du coup je regardais évidemment avec mes parents et ma mère, je crois qu'elle aimait bien aussi Smallville, mon père pas trop, je crois qu'il ne regardait pas tout le temps, et du coup c'est resté genre à chaque fois qu'on parle de chemise à carreaux, genre chemise canadienne, ma mère a dit c'est la chemise Clark, la chemise Clark Kent.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, petite dédicace à Céline, qui peut-être qu'elle nous écoutera ou pas, puisque son chat a été acheté dans le Kent et du coup, il s'appelle Clark.
Magnifique.
Génial. Je suis fan. Je suis totalement fan. Et donc, à part Smallville et Dark Angel, pour finir, j'ai quand même une très, très grosse phase sorcière. Même quand j'étais jeune enfant, j'avais beaucoup de livres de sorcières. C'était hyper drôle, vous allez vous moquer de moi, mais j'avais un livre avec des sorts. Et il y avait par exemple un sort des objets perdus. Et donc, je lisais mon petit sort quand je perdais un objet pour le retrouver. Et j'étais persuadée que ça marchait, que j'avais des pouvoirs magiques et tout.
Mais tu veux que je dise un truc encore pire?
Vas-y.
Est-ce que j'ai déjà parlé de Magic Academy d'un popcorn thérapie. Parce que ça, c'était aussi pendant mon adolescence. C'était un magazine sur lequel je suis tombée au marchand de journaux. C'était un magazine de façon un peu jeu de rôle. D'une école de magie, en fait, et dans lequel il y avait du coup des petites histoires et surtout des cours, en fait. Les profs, il y avait des personnages et des différents profs, et on pouvait lire les cours et tout, et faire des petits exercices et tout. Ouais, ça, j'étais à fond. Et je les ai tous gardés. D'accord. Et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps.
Je ne me moque pas, tu vois. Je me moque pas, j'étais pareil, donc il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, ouais, que... J'avais même les BD, Mélusine et tout. Enfin, vraiment, j'ai eu une grosse phase sorcière ado. Et donc, il y a plein de séries voilà, qui en parlaient. Et donc, je regardais tout. Il y a l'incontournable Charmed. Oui. Première partie de soirée de la trilogie du samedi.
Grosse obsession. Là, pour le coup, je ne l'ai pas mis parce que je savais que tu allais parler des séries. Donc, je me suis dit, mais là, Charmed, s'il y a une série pour laquelle j'étais à fond, c'était Charmed. Ça, c'est clair.
Et question, tu es team Prue ou team Paige?
Je crois que je reste Prue.
Je ne sais même pas pourquoi il y a des teams. Tu restes Prue quand même.
Mais j'aime bien Paige quand même. Mais ouais, je n'ai pas forcément eu de team. Mais par contre, j'étais vraiment très, très, très triste quand quand il n'y avait plus Prue, quoi.
Bah, moi, je crois que je l'aimais... Enfin, c'est pas que je l'aimais pas trop, mais... En fait, vous allez me dire que je suis une sociopathe, mais quand j'étais adolescente, j'étais beaucoup moins sensible et émotive que maintenant. J'étais très peu triste devant les films et les séries. En fait, j'avais vraiment conscience que c'était un film et une série, et que c'était pas la réalité. Et donc, même Titanic, quand je le voyais, je me disais, bah, je sais qu'ils sont pas morts, là. Ils sont en train de faire des toboggans. J'imaginais vraiment la caméra en train de filmer les gens et tout. Et donc, c'était très, très, très rare que je pleure devant les films. Il y a Carmageddon qui m'avait fait pleurer, parce que Bruce Willis, mon héros et tout. Mais vraiment, je ne pleurais jamais devant les films. Et je me rappelle une phrase, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans un épisode, où je regardais La Petite Maison dans la Prairie et la petite fille pleurait. Et je ne comprenais pas. Je dis à ma mère, pourquoi elle pleure? Elle me dit, regarde, parce que son chat est mort. Et je la regarde et je lui dis, quand mon chat sera mort, je devrais pleurer aussi. Mais vraiment, l'enfant sociopathe, quoi. Alors que maintenant, je pleure pour rien. Je suis triste. Je pleure de joie. Bref. Donc, du coup, c'est vrai que pour la mort de Prue ne m'avait pas fait grand-chose. Et j'aimais beaucoup Paige, donc voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de gens qui râlaient sur Paige en disant « Oh non, on préférait Prue » et qu'il y a cette espèce de team qui sont arrivés.
J'ai pas jamais détesté Paige, quoi, je crois pas. Mais c'est juste que Prue me manquait, quoi. Mais après, ouais, je trouvais que... Et je pense même avec le recul, je trouve que c'était un personnage plutôt cool. Enfin, ils ont réussi à renouveler, parce que c'était pas évident.
Ouais. Non, franchement, c'est pour ça, bien joué. Dans les autres séries sorcières, il y a aussi Sabrina, l'apprentie sorcière. Je ne sais pas si tu regardais.
Non, j'ai dû tomber sur des épisodes et puis je connais Salem. Mais
bien sûr, c'est le petit chat.
Mais j'ai pas regardé de manière suivie, quoi. Je tombais plus par hasard dessus, quoi.
Ah, moi, j'ai adoré. Je suis en train de regarder la date. C'est sorti en 96.
Ouais, alors, jeune. Enfin, ouais. Mais pareil, Charmed, ça a commencé, on était... Pas tout à fait ado. Hein. Bon, ça a continué assez longtemps. Donc,
Sabrina l'apprentie sorcière, il y a eu 7 saisons. Donc, de 96 à plus ou moins 7-8 ans. Quoi. Donc, ouais. Et moi, j'avais le jeu vidéo. Et le jeu vidéo était exceptionnel. On pouvait se balader dans la maison, dans le centre commercial. Il y avait le chat. Franchement, j'étais trop fan.
J'avais le jeu de société Charmed. Tu te souviens?
Ah, mais oui, bien sûr. Bien sûr que je m'en souviens. Quelle question.
Le livre des ombres.
Oh là là, incroyable.
Je l'ai toujours. Il est toujours chez mes parents.
Il faudrait qu'on se fasse une partie.
Ouais. Vas-y, ouais. Ça va un bonus pour Patreon, tiens.
Exactement. Exactement.
On va proposer à Ella Bête de faire un live.
Un live jeu de société Charmed. écoute, pourquoi pas. D'ailleurs, on parlera du Patreon d'Ella Bête. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a rejoint un label. Notamment pour payer l'hébergement de ce podcast, il y a un Patreon pour ceux qui veulent nous soutenir ou soutenir tous les autres projets du label, et on en parlera un peu plus en fin d'épisode parce qu'on a enfin trouvé ce qu'on allait faire dedans.
Oui, tout à fait.
Alors, donc, à part Charmed, Sabrina l'apprentie sorcière, il y a beaucoup plus vieux, mais j'avais les VHS de ma maman, c'est Ma sorcière bien-aimée.
En effet, là, c'est pas exactement de notre...
j'allais dire, ce n'est pas très radiophonique, mais j'ai vu la tête de Marjo. Je me suis demandé, elle connaît
pas. Bah oui, non, mais si. Mais il y avait des rediffusions, donc j'en ai vu de Ma Sorcière Bien-Aimée.
Je parle bien de la série et pas du film. Je sais qu'il y avait un film qui est sorti. Je parle de la série avec Elizabeth Montgomery et Dick York. Qui...
Je ne sais plus si c'était sur la 5 ou quoi, où il y avait des rediffusions de vieilles séries et j'en ai vu de Ma Sorcière Bien-Aimée.
Alors, c'est sorti effectivement en 1964, hein, donc c'est très vieux. L'épisode final est sorti en 72. Ouf, ça fait mal.
on n'était pas, c'est pas de notre génération. Donc ça...
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est gratuit sur Molotov TV, du coup, si vous voulez le regarder. Moi, je regardais parce que j'avais les VHS. Et pour ceux qui ont la Free, il y a une chaîne qui s'appelle OK TV, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça te parle, toi.
Non, je ne crois pas.
OKEE, OKI peut-être plutôt du coup, OKI TV. Et sur cette chaîne, il y a plein de films et de séries à l'ancienne. Et il y a cette série également. Voilà. Mais c'est trop marrant parce qu'effectivement, il y a plein de trucs des années, bon, des vieilles années, mais aussi des années 2000. Enfin, voilà, pour ceux qui ont Free, si vous voulez. Je ne sais plus quelle chaîne c'est, par contre, mais c'est OKI TV, ça s'appelle. Sinon, dans cet épisode, je vais parler aussi de deux autres séries dont j'étais quand même bien accro, que je regardais un peu moins parce que je n'avais pas ni les cassettes ni les DVD. Mais je les ai beaucoup, beaucoup regardées. Dès que ça passait, je ne ratais pas un épisode. Et je les ai beaucoup re-regardées, adulte aussi. Donc, je pourrais aussi voir un petit peu plus... Enfin, comparer ado, adulte, c'est Gilmore Girls et Buffy. Et je pense que ça a eu pas mal d'influence sur la personne que je suis aujourd'hui, ces deux séries.
Alors, autant Gilmore Girls, j'ai jamais regardé.
Non, mais je suis sûre que ça te plairait en plus.
Mais je sais, en plus, à chaque fois qu'on conseille des séries cosy, ambiance automne et tout ça, à chaque fois on parle de Gilmore Girls et... Il faudrait. Mais oui, ça fait partie de ce que j'ai loupé. Et Buffy, alors Buffy, j'ai vu des épisodes. J'adorais à chaque fois que je tombais dessus. Mais en fait, dans mon souvenir, ça passait pas en début de soirée. Ça passait plus tôt. Genre un peu à l'heure du repas, il me semble. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu, ou alors c'était peut-être des rediffusions. Mais j'ai vu des rediffusions qui passaient à l'heure du repas ou alors juste avant l'heure du repas. Et du coup, je me souviens que... Nous, on regardait juste les séries quand on était les soirs, enfin les semaines où mon père n'était pas là le soir, parce qu'on était trois avec ma mère, et la disposition de la maison faisait qu'on pouvait regarder à trois une série en mangeant, mais pas à quatre, parce qu'il y avait quelqu'un qui tournait le dos du coup à la télé sinon. Ça a influencé ce que j'ai regardé de manière régulière ou pas, parce que je me souviens par exemple que Buffy, il y avait des semaines où je le voyais, des semaines où je le voyais pas, et du coup j'ai jamais pu suivre vraiment, et il y avait quand même un petit peu une histoire quand même dans Buffy, ça fait partie des choses que je sais que ça a énormément eu d'impact sur beaucoup de gens, et du coup je me suis dit que pareil, il faudrait que je prenne le temps de voir de A à Z, mais je ne l'ai jamais fait.
Moi, je me rappelle que j'avais beaucoup regardé au début. J'étais complètement obsédée par le couple Buffy-Angel. Et donc, je pense que c'est pour ça que je regardais vraiment bien. Quand ils se sont séparés dans la série Tristesse, j'ai fait une grosse pause où j'ai arrêté de regarder. Et j'ai repris un peu plus tard. Donc, en fait, je sais que j'étais... Un peu comme Gilmore Girls, je regardais, dès que ça passait, je regardais, mais quand je suis partie en internat, je pense que c'est le moment où j'ai un peu lâché, et par contre, je n'ai jamais été jusqu'au bout, contrairement à Smallville, j'ai jamais vu toutes les saisons, et faudrait, parce que je sais qu'après, ça y parle, Willow devient une sorcière, enfin, j'ai l'impression que ça a l'air assez sympa la suite, c'est sur Disney+, un jour où j'aurai le temps, je regarderai sûrement.
Alors maintenant qu'on a parlé de ce qu'on regarde, ce qu'on regardait en tout cas, ou qu'on regarde toujours, on va passer à notre partie de thérapie. Donc ouais. Pourquoi on regardait autant en boucle ces contenus ? Qu'est-ce qui nous poussait à y revenir et à être complètement en boucle, ouais, c'est ça, sur ces trucs-là.
Ouais, c'est vrai que maintenant, de nos jours, avec Netflix, c'est plus facile. Donc, quand nous, on le faisait à l'époque, il y avait vraiment quelque chose, quoi. C'était pas pour rien. J'ai essayé de lister. J'ai regardé un petit peu sur Internet des articles de psychologie, etc. Et j'ai essayé de lister les raisons pour lesquelles on regarde plusieurs fois un contenu. Et on va essayer de voir, du coup, comment ça fonctionne avec nos obsessions. Alors, le premier argument, c'est le plaisir de découvrir de nouveaux détails. Et alors, quand j'ai lu cet argument-là, ça m'a fait rire parce que j'ai directement pensé à toi et avec le Seigneur des Anneaux.
Ouais, notamment. C'est clair parce que... l'obsession du détail, bien plus, ça c'est quelque chose qui se prêtait d'autant plus aux grandes sagas dont j'ai parlé de cette époque-là, même Pirates des Caraïbes, mais bon, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même, c'est l'exemple avec un grand E, parce que c'est une époque où les blockbusters, certes, utilisaient du numérique, évidemment, mais on avait quand même, par rapport à... genre peut-être quelques années après, dans les années, début des années 2010, ça s'est un petit peu perdu, ça revient maintenant, mais on avait vraiment des sets et des costumes qui regorgent de détails, parce que tout n'était pas numérique, il y avait quand même beaucoup de choses tangibles, et du coup quand on regarde les making-of, c'était assez fascinant, parce qu'on voit tous les détails, on voit... tout ce qui a été fabriqué et puis dans les magazines, les interviews dont on parlait, tout ça, ça encourage en plus le revisionnage pour retrouver les anecdotes dont il parle, les anecdotes de tournage dont il parle. Et moi, c'est vrai que c'était quelque chose que j'adorais, de lire les interviews pour avoir les anecdotes de tournage. Et puis après, quand je revoyais le film, parce qu'autant, je peux totalement, contrairement à ce que tu disais par rapport à toi, ton expérience, moi je m'immergeais totalement quand je regardais quelque chose. Pour moi, j'étais complètement immergée et c'était la réalité, quoi. Je suspendais mon incrédulité. Par contre, je pouvais aussi compartimenter et me mettre en mode making of et du coup me replonger en mode comment ils ont fait ci, ça. Et ça me fascinait, ça cassait pas du tout la magie, ça m'empêchait pas du tout de replonger après dans l'immersion quand je revoyais le film. Donc c'est clair que notamment avec ce principe des bonus, etc., ça encourage le revisionnage pour retrouver avec un savoir en plus qui enrichit notre revisionnage, quoi. Et ça, c'est hyper plaisant, quoi.
Dans les séries, je trouve que c'est un petit peu moins le cas parce qu'il y a peut-être moins d'attention à porter aux détails, peut-être parce que au final faut filmer plus vite, etc., mais je trouve que à part des fois il y a une petite seconde lecture, souvent dans les séries c'est moins présent, en tout cas. Par contre, moi je retrouve vraiment le plaisir de les découvrir autrement, donc pas découvrir des nouveaux détails mais découvrir une différente manière de penser, surtout quand on grandit. Ces séries là et ces films, comme on disait, on les a vus et revus, sauf qu'on a grandi en même temps, on est passé d'enfant, ado, jeune adulte et puis là maintenant adulte. Et je trouve que c'est hyper intéressant justement d'avoir un point de vue différent et de les découvrir de différentes manières. Et je pense typiquement à Gilmore Girls, puisque enfant, adolescente, moi je m'identifiais complètement à Rory, hein, qui est l'adolescente qui est au lycée, etc., qui grandit au fur et à mesure. Alors que maintenant, je me suis refait la saga à l'automne dernier, quand j'étais... l'automne dernier, oui, c'est ça, l'automne dernier, quand j'étais enceinte, en plein gauche, je m'en billets, donc je me les suis tous refaits, puisqu'ils sont disponibles sur Netflix, pour info. Et je m'identifiais complètement à Lorelai et la maman, quoi. Et donc, des moments où avant, je m'étais dit, oh, Rory, elle a raison, c'est énervant, sa mère est relou. Là, maintenant, quand je les regarde, je suis là en mode, mais Rory est énervante, sa mère a raison. Donc, c'est assez marrant. Et peut-être que si je les revois dans 20 ans, je m'identifierai à la grand-mère.
Ouais, après, je trouve que dans les séries, l'intérêt, des fois... pas forcément du revisionnage au moment où ça a diffusé ou du coup on revoit tout de suite l'épisode, mais justement, comme tu disais, de refaire des marathons, c'est de voir les arcs de personnages. Oui. Parce que c'est ça l'intérêt des séries qui en plus durent longtemps, sur plusieurs saisons, etc. C'est l'intérêt, par exemple, qu'a pu avoir Harry Potter, évidemment. Mais bon, Harry Potter, c'était différent parce que j'avais les livres. Donc, j'étais plus obsédée par les livres que par les films. Donc les films, c'était plus un truc en plus. enfin, les séries en particulier, le fait qu'on suit sur plusieurs années, plusieurs saisons, et où du coup, on a vraiment le temps, les personnages ont le temps de vivre beaucoup, beaucoup de choses, c'est hyper intéressant de revoir, de revoir à, avec un certain recul, de, on sait où va l'histoire du personnage, de retourner au début. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai forcément fait, par exemple, avec Charmed, par exemple, je crois que je n'ai jamais refait tout Charmed depuis le début. Mais par contre, je l'ai fait une fois que je suis sortie de l'adolescence avec la série qui m'a obsédée dans les années 2010 avec Game of Thrones, où je me refaisais les saisons pour justement revoir les arcs de personnages. Et c'est assez fascinant.
Le deuxième argument, c'est qu'ils éveillent en nous des émotions positives. Et donc forcément, bah, qui dit émotion positive dit qu'on a envie de revoir. Hein.
Ouais. Et d'autant plus, moi, ça me rappelle d'autant plus ma pratique d'aller dans mes chapitres préférés des DVD. Parce que, alors certes, il y a l'expérience de regarder tout un film en entier qui procure une émotion particulière. Mais moi, comme j'avais des réactions émotives très fortes sur des scènes, je pouvais réactiver cette émotion juste en regardant la scène hors contexte. Donc, je sais pas, dans... Les deux tours, je regardais toujours le moment où Gandalf arrive en haut de... voilà, où il arrive au secours et avec la musique, etc. C'est aussi pour ça que je réécoutais aussi et que j'étais très, très, très attentive et que j'associais beaucoup mes émotions aussi à la musique parce que bah, sans même revoir la scène, il me suffisait de réécouter un morceau de la BO pour réactiver l'émotion qui allait avec. C'était une de mes drogues, drogues douces d'avoir ces réactions d'émotion, des réactions émotives sur ces scènes-là, quoi, c'est clair.
Ouais, mais moi, c'était pareil, hein. Clairement. Là, je pense à Roswell, par exemple. À chaque fois que j'étais triste, bah, je regardais un épisode et je me sentais tout de suite mieux. Et je pense que ça fait... Quand on parle de films ou de séries doudou, bah, en fait, c'est clairement ça, quoi. Et c'est pour ça qu'on les revoit en boucle. Et maintenant, adulte, quand je le regarde, j'ai aussi cette émotion positive encore. Là, comme j'ai dit, j'ai regardé Roswell sur Sister il n'y a pas longtemps et j'ai encore cette sensation de joie que je ressentais. Donc, c'est assez marrant. Et par contre, c'est vrai que là, maintenant, de nos jours, j'ai réfléchi à si vraiment je suis triste, quel film ou quelle série je regarde direct. En fait, c'est un film que j'aurais été complètement accro-ado, mais que je ne connaissais pas. Et pourtant, il est sorti quand on était ado. C'est Burlesque avec Christina Aguilera, qui est sur Netflix. Je l'ai connu, je devais avoir 20-22 ans. Et directement, je suis tombée accro. Il y a de la romance, il y a de la musique, il y a du cabaret, enfin... Voilà, c'est totalement ma came. Et maintenant, quand je me sens pas bien, bah clairement, je le regarde lui, quoi. Et je pense que j'en aurais été accro. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'est ça, c'était... je regardais Roswell, ou je regardais Charmed, je regardais Dark Angel. Je me mettais un épisode et tout de suite, ça allait mieux. Moi, j'étais moins accro à la musique que toi, en tout cas. C'était pas quelque chose qui me touche. Enfin, j'écoutais de la musique, mais pas de la musique de film ou de série, quoi. C'était que je différenciais vraiment les deux.
Alors, un autre argument... pour regarder les films et séries, c'était particulièrement, je pense, quand on est adolescent, ça permet de générer de la sympathie, sentiment de proximité avec leur histoire. On se projette dedans et on considère alors on peut considérer peut-être les personnages comme des amis virtuels et qu'il y a vraiment un sentiment de proximité, de familiarité qui est réconfortant et puis peut-être qui nous poursuit après le revisionnage, on réactive peut-être cette proximité avec ces personnages. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, gamine et adolescente, j'avais un monde intérieur très très riche, toujours aujourd'hui, mais vraiment en tant qu'adolescente, j'avais besoin de cet imaginaire et de ces amis virtuels qui soient présents, quoi, au quotidien. Ouais. Donc c'est vrai que entretenir ces amitiés virtuelles, c'est trop bizarre à dire comme ça, mais par des revisionnages, c'était important, quoi. Donc, et pour toi, du coup, est-ce qu'il y avait des personnages en particulier qui ont été présents plus que d'autres?
Ouais, j'arrête pas d'en parler, mais moi, typiquement, Roswell, comme je le regardais tout le temps et en boucle, clairement, je m'imaginais des histoires dans ma tête avec eux, mais tout le temps. Et ce qui est hyper drôle, c'est que j'en ai des souvenirs hyper précis chez ma grand-mère en vacances, parce que bah forcément, il y avait moins de choses à faire que lorsque je suis chez moi. Hein, parce que y avait, et puis, il n'y avait pas la télé chez ma grand-mère. Enfin, il y avait la télé dans le salon, mais c'est tout. Donc, je me faisais mes petits films dans ma tête et tout, dans le jardin. C'était hyper drôle. Et
chez mes grands-parents aussi, je pense qu'il y a le côté un peu,
un truc,
l'ennui, ça stimule
l'imagination. Mais oui, on dit bien qu'il faut qu'on apprenne à s'ennuyer et que même chez les jeunes maintenant, ils savent plus s'ennuyer. Rien que quand on fait une minute de silence, ils cherchent le regard, ils cherchent à faire quelque chose avec leurs mains. Je pense que c'est aussi une richesse de notre génération de savoir ennuyer et du coup d'avoir appris à s'ennuyer entre guillemets et d'avoir développé notre créativité comme ça. Après, plus tard, plus que des amis fictionnels, ça a plus été des modèles, je dirais, que ce soit Jessica Alba dans Dark Angel, ou Buffy, ou Paige de Charmed, je m'identifiais beaucoup à elles et j'avais vraiment envie de leur ressembler, et comme j'ai dit, je pense qu'elles ont eu un rôle dans la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Alors, des fois des bons modèles, des fois des mauvais, on reviendra un petit peu dessus quand on va parler de l'analyse qu'on en a maintenant adulte, mais c'est vrai que oui, j'avais cette impression de proximité, de familiarité avec bon nombre de personnages.
Ouais, bon, comme je disais, moi aussi, bon, il y a eu évidemment Harry Potter, c'était particulier parce que comme je disais, c'était les livres plus que les films qui m'accompagnaient. Mais il y avait quand même cette proximité où j'avais exactement le même âge, on avait exactement le même âge que les acteurs. Enfin, la sortie des films était parfaite pour les imaginer comme nos amis, quoi. Et du coup, de les imaginer dans mon quotidien au collège, c'était quand même quelque chose qui aide à passer les années collège. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux a quand même beaucoup, beaucoup occupé aussi mon imaginaire. Donc, de me projeter comme ça dans la Terre du Milieu, c'était forcément... avec Legolas, Aragorn, Arwen, c'était le trio avec qui j'ai vécu de magnifiques aventures. Et je me souvenais, ouais, par exemple, comme on faisait, dès qu'il faisait beau, on faisait toujours une balade en forêt le week-end avec mes parents. Forêt de Fontainebleau, parfait pour stimuler l'imaginaire et pour projeter d'imaginer qu'il y a des elfes entre les arbres et pour ne pas trop s'ennuyer pendant nos randonnées, d'imaginer que dans ce magnifique paysage avec des rochers, avec des arbres et tout, qu'il puisse y avoir des aventures liées au Seigneur des Anneaux, ça marchait très bien.
Ah, tu m'étonnes. Un autre point que j'ai lu sur internet et je me suis dit mais oui en fait totalement, c'est ils expliquaient que le cerveau humain tendait vers le prévisible, qu'en fait on regardait ces films parce qu'il y avait une espèce de confort dans le fait de revoir plusieurs fois puisqu'on avait le contrôle, que le cerveau était fait pour apprécier ça. Je m'exprime très mal mais je pense que vous avez un peu l'idée. Et alors j'ai pas réussi à me trouver moi perso des exemples. Mais c'est vrai que je me suis dit effectivement c'est confortable de savoir ce qui va se passer après, et c'est pour ça que dans certains films ou dans certaines séries je demande toujours à être spoilée. Moi je suis partie de cette team là qui dans certains cas aime être spoilée, surtout les décès. J'ai dit quand j'étais petite et ado je n'étais pas sensible, donc quand il y avait un décès dans un film ou dans une série ça ne me touchait pas du tout. Maintenant j'ai beaucoup beaucoup de mal, hein. Je ne pense pas avoir raconté cette anecdote, mais je suis une grande, grande fan de One Piece. Et quand il y a eu un certain personnage qui est décédé, je pense que vous allez voir si vous êtes fan de qui je parle, j'ai arrêté de lire les scans pendant au moins 5 ans. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. 5 ans quand même. Voilà. Donc j'ai bien changé là-dessus. Et je demande souvent maintenant à savoir à l'avance s'il y a des personnages dans les séries que je regarde qui vont mourir, parce que j'aime pas être surprise et être triste, et donc j'ai besoin d'avoir le contrôle. Et donc je pense qu'effectivement, sans le savoir, ces séries que je regardais en boucle, c'était confortable parce que je savais que tout allait bien se passer et que j'allais juste être bien en les regardant.
Ouais, non, je comprends. Moi, après, c'est vrai que ça me parle plutôt dans le sens où les films... desquels, enfin, j'étais vraiment fan ou je suis toujours vraiment fan, et c'est jamais le premier visionnage que je préfère. C'est parce qu'en fait on a toujours un peu d'angoisse, enfin surtout quand on est vraiment impliqué dans une série, dans une saga où tu sais pas ce qui va se passer, ou alors tu sais pas si ça va être bien, si c'est une adaptation. Moi j'ai des souvenirs D'Harry Potter, encore une fois, où forcément, j'avais, à part le premier, dès que le premier est sorti, après le premier film est sorti, j'ai lu les livres. Et par exemple, je pense que j'ai déjà raconté, mais quand je suis sortie de mon premier visionnage de Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, le troisième, j'ai dit que j'avais détesté. Alors que maintenant, c'est mon film préféré. Mais j'avais détesté parce que j'avais lu le livre juste avant et j'avais relu le livre juste avant et que du coup, il y avait trop de changements et blablabla. Et du coup, j'avais pas fait la différence entre les deux. Et maintenant, c'est clairement mon film préféré. Mais sans aller sur cette idée d'adaptation, même pour Pirates des Caraïbes, mes premiers visionnages, même si je les ai aimés, il y avait toujours ce côté « je sais pas ce qui va se passer ». J'ai du mal, j'ai tellement regardé, re-regardé, j'associe tellement ces personnages à des choses que je connais par cœur qu'il y a toujours un petit inconfort dans je sais pas, et ça fait toujours un peu bizarre de voir des personnages qu'on a l'habitude de voir tout le temps dans les mêmes situations, dans d'autres situations, ou alors ils évoluent, ils changent un peu, et du coup c'est vraiment, ça a été souvent des revisionnages qui m'ont permis de m'accrocher. Mais Star Wars, c'est pareil, même dans la nouvelle, d'un certain point de vue, dans des sagas plus récentes où les premiers visionnages, c'est rarement les meilleures expériences. Quoi.
Non, je suis d'accord avec toi.
À part quelques exceptions, je pense que ça ne m'a jamais fait le cas pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais du coup, c'est quand même souvent le cas pour moi.
Le dernier point, avant de passer du coup à quand on va être adulte et... Maintenant, d'un point de vue adulte, ce qu'on en pense, c'est le fait de grandir avec les personnages, se reconnaître en eux, qui nous aident à surmonter des moments difficiles. Je pense à des passages, par exemple, si effectivement, bon, c'est un exemple bateau, mais peut-être que certains d'entre vous, auditeurs, vous avez eu vos parents qui ont divorcé, par exemple, et le fait de voir ça dans des séries ou dans des films que vous regardez régulièrement, dont vous êtes un peu accro, et ça vous fait du bien de vous dire que vous n'êtes pas seul, de vous donner des petits conseils sur comment ils le surmontent. Moi, c'est vrai que j'ai pas été concernée par ça adolescente, j'ai quand même eu une adolescente plutôt calme et heureuse. Mais par contre, c'est vrai que vers 20 ans, quand j'ai eu mes premières ruptures amoureuses, beaucoup de séries m'ont aidée. De ces séries que je regardais du coup en boucle depuis ado déjà, voir Liz se faire plaquer par Max, Rory qui enchaînait les mecs, Buffy et Angel se séparer, enfin voilà, ne voir qu'on n'est pas seul là-dedans, et forcément ça réconforte.
Ouais, alors, je suis d'accord. Bon, moi pareil, j'ai pas eu de périodes très noires pendant mon adolescence qui ont fait que j'ai pu projeter directement des expériences dures dans ce que vivent les héros que je suis, mais peut-être plus de manière un peu plus générale, il y avait ce côté quand même, je pense, encore une fois Harry Potter, mais il y avait...
T'inquiète pas, c'est le but de l'épisode, ouais, on parle des choses dont on était c'est accro.
Ça. Oui, bien voilà. Sûr, mais du coup, ça m'a quand même pas mal, ça donne des... Bon, on va en reparler encore une fois du point de vue adulte, parce que c'est difficile de se rendre compte quand on est vraiment... Je pense que je ne m'en rendais pas forcément compte quand j'étais ado directement, mais d'avoir des modèles un peu inspirants et les manières qu'ont les héros de réagir face à des injustices, face à des choses comme ça, ça, c'était quand même quelque chose qui m'a marqué. Par exemple, je pense que Harry Potter, la manière dont ça m'a marqué, c'est d'être un peu moins... comment dire, parce que j'étais quand même... jeune et au début de collège, dans le moule de l'élève modèle, quoi. Donc, le prof a forcément raison, le prof est forcément parfait. voilà, il y a ce côté-là. Et puis, d'avoir assez peu confiance en moi, au point d'avoir des angoisses assez jeunes sur, par rapport à si je fais assez bien les choses, etc. Et donc, du coup, d'avoir des modèles qui sont un peu comme ça, mais qui du coup surmontent et puis qui se retrouvent face à des adultes qui sont pas parfaits et qui font des choses mauvaises contre lesquelles il faut se rebeller, etc. Ça, c'est des choses qui m'ont, je pense, vachement aidé à avoir un peu plus confiance dans les capacités qu'on peut avoir en tant qu'adolescent et qu'on n'est pas... c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas raison de penser que certaines choses sont injustes, et c'est plus dans cette dimension-là que ça m'a pas mal inspirée quand même, je pense.
tu sais que ça me fait rire parce qu'il y a moins d'une semaine, j'ai vu sur Twitter un thread. Oui, je continue à dire Twitter et pas X. Ça me perturbe, j'ai l'impression de parler d'un film X si je dis X. Donc,
moi, je continue à dire Twitter, hein, même si...
C'est comme les Walt Disney Studios qui resteront les Walt Disney Studios pendant encore 20 ans, pour moi. Je suis la vieille qui dit Euro Disneyland. Non, je dis quand même Disneyland, mais... mais on pourra dire ça plus tard. Ouais, et du coup, il y avait un prof qui disait « Oui, j'en ai marre des élèves qui disent « oui, mais » dès qu'on leur fait un reproche. » Enfin, quelque chose d'assez violent, en mode « Depuis quand on remet la parole du prof en question et on se permet de répondre ?» Moi, pour moi, le prof avait raison, point. Et en fait, ça m'a vraiment dérangée parce que, oui, effectivement, quand tu demandes à un élève « arrête de bavarder », qui te répond « oui, mais c'est parce que je faisais ci », c'est pénible. Mais en fait, se dire « c'est le prof qui a figure d'autorité, t'as pas le droit de répondre et de te justifier et d'argumenter », bah non, en fait. L'élève qui va dire « oui, mais 15 fois »,« oui, mais je lui passais une gomme »,« oui, mais c'est lui qui a commencé »,« oui, mais », et qui te le dit 10 fois, oui, tu vas le reprendre après, tu vas lui dire « bon, voilà, je t'ai repris 10 fois, tu m'as trouvé une excuse ». Non, si c'est pas quelque chose d'important, juste tu te tais et puis c'est tout. Mais l'élève qui te dit « oui, mais je suis en train de lui demander une serviette hygiénique », bah tu vas pas dire « non, effectivement, tu lèves la main pour la demander devant toute la classe ». Donc ce côté trop, effectivement, tu remets jamais en question parce que t'es un enfant, j'aime pas du tout ça. Et ça me fait penser à ça, voilà, quand t'as dit ça.
Mais bon, ouais, non, mais petit c'est aparté. Que... C'est vrai que bon, c'est, je pense que c'est un des propres aussi des contenus dirigés vers les ados, voire young adultes, c'est qu'on est, c'est quand même très souvent des héros jeunes qui, je ne sais plus le mot, en français, mais ils sont empouvoirés, c'était pas le bon mot, je pense.
Mais oui, je vois ce que tu veux
voilà,
dire.
Enfin, on leur donne la capacité d'action, quoi. C'est forcément inspirant, quoi. Enfin.
Mais moi, je trouve ça chouette. Hein.
Ouais.
Je trouve ça bien, effectivement. Et là, quand je vois, par exemple, Percy Jackson qui est sorti en ce moment, bon, la série a ses défauts, hein, elle est pas, voilà. Mais je trouve que c'est chouette de montrer des enfants qui, effectivement, sont capables de faire plein de choses, qui partent à l'aventure, etc. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Mm. Et que, effectivement, ce genre de film comme Harry Potter a inspiré toute notre génération. Donc, c'est chouette.
Et je trouve que c'est inspirant à la fois pour les personnages dans lesquels on se projette, mais aussi pour remettre quand même un peu un rôle positif dans les adultes. Il y a toujours des mentors aussi. Il y a toujours des mentors hyper positifs. Et je trouve que ça, au-delà de le côté rebelle que ça peut un peu encourager, il y a quand même aussi ce côté, vous pouvez trouver des figures qui seront inspirantes pour vous, qui vous aideront, des adultes en qui vous pouvez avoir confiance, des guides. Et ça, c'est quand même, même s'il faudra, puisqu'ils meurent toujours dans ce genre d'histoire, il faudra toujours s'en séparer, mais ça, c'est quand même des étapes importantes. Et du coup, c'est...
Ouais, bah c'est pour ça que Gilmore Girls, j'aimais beaucoup aussi, parce que je trouvais que ça replaçait la relation mère-fille. En fait, s'il y avait une belle relation mère-fille, où souvent dans des séries ou dans des films, c'est conflictuel. Là, moi, je sais que je m'entendais plutôt bien avec ma maman, on était très proches, on l'est encore plus maintenant. Et du coup, le fait de voir ça aussi, il y a ce côté où, adolescent, on a souvent un peu honte de ses parents, on ne veut pas être avec eux, on ne veut pas faire trop de choses avec eux le week-end, etc. Et cette série-là, au contraire, c'était, ça partait à contre-courant de ce qu'on voyait d'habitude. Et effectivement, là, l'adulte avait ce double rôle, le rôle du adulte responsable, mais aussi, comme tu as dit, mentor, personne de confiance.
Alors justement, puisqu'on parlait d'adultes, transition, maintenant que nous sommes des adultes, que nous pouvons avoir ce rôle de mentor.
Même si dans ma tête, des fois, j'ai quand même l'impression d'être une enfant. Hein.
Oui, je trouve qu'on est... C'est ça que moi, j'aime beaucoup. Je pense que je n'ai pas trop de soucis avec l'idée de vieillir, mais en même temps, je trouve qu'on est dans un moment de vie qui est assez sympa, où en même temps... on a encore des souvenirs très présents de notre jeunesse. Je veux dire, là, de se replonger dans notre adolescence, c'était pas il y a si longtemps que ça, quand même.
Non, certes, ça va.
C'était il y a 15 ans, un peu plus. Mais ça va, on s'en souvient, quoi. Après, je pense que c'est peut-être des périodes où on s'en souviendra toujours parce que c'est des moments très importants dans notre vie. Mais en même temps, on a quand même un peu de recul, on a vécu différentes choses. Et moi, je me rends compte, en interagissant avec vraiment des jeunes adultes, avec des gens qui ont 20 ans, entre 20 et 25 ans, bah, y a une différence entre des gens qui ont 20, 25 ans et nous, quoi. Et puis, pareil, moi, c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté... On peut apporter de la sagesse à d'autres personnes parce qu'on a vécu un peu plus de choses. Donc, c'est cool. Mais donc, maintenant qu'on est vieille et sage...
Oh non, dis pas qu'on est vieille.
Non, on est moins jeune.
C'est mieux, je préfère.
Quel regard on pose avec de regards plein de sagesse sur ces contenus et est-ce qu'on les apprécie toujours? Est-ce qu'on les regarde toujours? On a déjà un petit peu répondu à cette question. Ouais. Alors moi, comme j'ai dit, Charmed, pourtant c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais gamine. Je l'ai très peu revu. J'ai même jamais revu en entier. Par contre, tout le reste que j'ai cité, notamment la triade Harry Potter, Seigneur des Anneaux, peut-être Pierre des Caraïbes un peu moins parce que c'est la suite de la saga. Ça m'a un peu fait m'éloigner. mais par contre, pour le reste, ça reste très très présent dans mes passions aujourd'hui. Le fait que je sois maintenant impliquée dans le fandom, en l'occurrence Harry Potter, mais je veux dire, il y a deux semaines, j'étais au Salon Fantastique, j'ai passé une heure sur le stand de Tolkien Deal avec nos homologues de l'association donc de fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. C'est très présent dans mon quotidien, donc oui, j'apprécie toujours et avec peut-être un regard un peu plus mature, plus critique, etc. Mais je reste toujours très très proche de ces passions-là, quoi.
Bah, moi, globalement, toutes les séries que j'ai citées, il y a plusieurs où je suis encore bien bien fan et que je les regarde avec plaisir. Donc j'en ai parlé, hein, Roswell, Smallville, Gilmore Girls, clairement, je les revois souvent. Après Roswell, là, quand je l'ai revu du coup il y a un mois... Ça me fait mal au cœur de le dire, mais je trouve que ça a quand même mal vieilli. Les dialogues sont un peu ridicules.
Oh, zut.
C'est un peu cucul à praline quand même, hein. Mais j'apprécie encore parce que... Surtout la première saison, après ça va mieux. Mais j'apprécie encore parce que c'est une petite Madeleine de Proust, quoi. Donc ça me fait encore beaucoup de bien de le regarder. Et puis contrairement à d'autres films ou d'autres séries, ça a pas mal vieilli en étant problématique ou en étant raciste ou en étant... Par exemple, on y voit... une tribu indienne dans la saison 1, et bien je trouve qu'elle c'est hyper respectueux, vraiment il n'y a aucun cliché, c'est hyper bien représenté et c'est rare, enfin surtout dans ces années là et du coup voilà, peut-être que les dialogues sont un peu bateaux mais au moins je suis quand même fière d'avoir aimé cette série qui n'est pas problématique, quoi, qui est encore moderne, entre guillemets, pour ça. Après, il y a beaucoup de séries que je n'ai pas revues, comme Buffy, Charmed ou Dark Angel. Alors, Dark Angel, j'ai les DVD, donc il faudrait vraiment que je m'y remette. Donc, je ne saurais pas trop dire. Je pense qu'il y a moyen que j'aime encore.
J'ai un peu peur de Charmed, parce que je crois que j'avais revu des extraits, etc. J'ai dit, ah ouais, c'est quand même pareil au niveau des dialogues, du jeu d'acteur, etc. C'est comme...
Ouais, peut-être, mais c'est pareil, je me dis petite Madeleine de Proust, tu vois, ça peut passer, mais c'est vrai que les séries que je re-regarde maintenant quand j'ai un petit coup de mou et que j'ai envie de me faire une série par exemple en faisant la cuisine et que des trucs que je connais, je vais plutôt avoir tendance à regarder Gossip Girl ou Pretty Little Liars, des séries comme ça que j'ai plus regardé beaucoup plus tard. On pourra faire un épisode d'ailleurs sur la vingtaine, on va dire.
Jeune adulte.
Mais voilà, que j'ai... là maintenant de nos jours, je vais plus regarder ce genre de contenu-là. Mais je pense que ouais, je l'aimerais encore. Après, concernant les films, bah, j'ai mentionné La Momie, Coyote Girl ou Fashion Victim. Je les regarde encore, je les apprécie encore, avec un peu de honte, je l'avoue. Et ça me fait une belle transition.
Même la momie.
Non, mais alors, parce que je vais vous expliquer La Momie, pourquoi j'ai honte d'aimer. C'est parce que c'est une scène... que j'aimais beaucoup adolescente et que quand je la regarde me plaît toujours et je me dis j'ai un peu honte d'aimer et je vais vous expliquer parce que justement on va passer à la troisième partie. C'est on va essayer de regarder un peu le type de représentation dans lesquelles on a pu se projeter, donc c'est-à-dire les tropes des années 2000 avec lesquelles on a grandi, qui nous ont influencés et ce qu'on en pense maintenant et ce qu'on les conseillerait du coup maintenant à des ados malgré ça. Bah, je vais rebondir typiquement directement sur le problème de La Momie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé quand j'étais adolescente le côté fille en détresse et que je voyais dans la plupart des films, dans la plupart des séries. J'avais envie d'être cette fille en détresse qui se fait sauver par un homme, ce besoin de se sentir protégée. Je pense que c'est aussi pour ça que moi, j'ai jamais été célibataire très longtemps. J'ai eu mon premier copain au lycée, enfin, mon premier vrai copain, j'ai des petits coups de cœur à droite à gauche avant ou des petits bisous, mais mon premier vrai copain au lycée. Et après, j'ai enchaîné et j'ai dû être célibataire dans ma vie peut-être 3 mois, enfin, c'est tout quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai développé maintenant une dépendance affective, parce que j'avais ces modèles-là. Et clairement, je me suis rendu compte que dans plein de séries, c'était ça, que ce soit dans Roswell où Liz, premier épisode, se fait sauver par Max, dans Smallville, Lana par Clark Kent, plein de fois. Même c'est si elle a... que même j'y si... Même si je trouve que dans les dernières saisons que tu n'as pas vues, ça s'est quand même pas mal modernisé. Lana revient en mode un peu bad girl, je me sais me battre, etc. etc. Et puis il y a Lois Lane qui est hyper charismatique et femme indépendante, forte et tout. Donc voilà, c'est surtout dans les premières saisons. Et du coup, bah, dans La Momie 2, moi j'étais à fond déjà dans La Momie 1 sur le couple Evelyn et Rick. Et alors le passage où il la croit morte, qu'il arrive en pleurant, qu'il du coup va se battre pour la venger, puis finalement elle n'est pas morte et tout. Mais en fait, ce passage-là, mais j'ai dû le voir mais 1000 fois. Vraiment, j'allais sur le DVD, puis je regardais chapitrage ce passage et je trouvais ça trop émouvant. Et je voulais qu'un homme comme ça soit aussi triste et même à ce point-là et tout. Enfin, et maintenant, je me dis, oh là là, mais... c'est un peu la honte. Alors, rassurez-moi, venez nous écrire sur Discord, sur Insta, sur ce que vous voulez. Dites-moi que je ne suis pas la seule.
Non, je pense que c'est pas la seule.
Mais adolescente, vraiment, j'avais ce modèle-là. Et c'est vrai que là, maintenant, on en parle beaucoup quand on parle des films en disant « oui, on veut des histoires d'amour plus modernes où on arrête d'avoir ce côté fille en détresse, la femme qui se fait sauver par l'homme, qui se fait défendre, etc. » Mais moi, ado, j'étais obsédée par ça. Et j'en ai un peu honte maintenant. Enfin, c'est pas que j'en ai honte, c'est que je me dis c'est quand même triste que ce soit ces modèles-là qui ont influencé mon adolescence, quoi.
Je pense que ton expérience, elle doit être partagée par beaucoup, beaucoup de monde. Moi, c'est alors, j'ai pas été sensible à ça, mais à un inverse opposé, en fait, pour le coup, parce que ça, le trope que tu racontes, c'est un trope qui est quand même vachement ancien, enfin, qui infuse et qui est toujours présent aujourd'hui, même s'il a été... Maintenant, on le voit, donc ils essaient de faire attention. Mais du coup, moi, c'était... un des tropes dans lequel je me suis pas mal projetée à ado, c'est celui du... je sais pas comment on le traduit en français, c'est le « not like the other girls », le « pas comme les autres filles
».
Qui est quand même... C'est un truc qui est... Je pense qu'elle a paru un peu dans les années 90 et qui est devenu très, 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 très présent dans les années 2000. Et qui est pas... contrairement à ce qu'on a l'impression qu'il donne à première vue, qui n'est pas du tout positif. Parce qu'en gros, pour expliquer c'est quoi ce trope, en gros, c'est la fille, mais qui ne fait pas des trucs de fille, qui n'est pas trop girly, et qui du coup se fait remarquer parce qu'elle n'est pas dans les codes traditionnels de la féminité, et du coup, ça la rend tellement plus cool. Hermione. Hermione, elle est dans ce trope-là. Et c'est pas du tout une manière saine et positive de se construire par rapport à son rapport à la féminité. C'est pas du tout ce dont on peut parler aujourd'hui sur la fluidité de genre, le fait de remettre en cause l'assignation à tel ou tel code qui sont liés à notre genre, etc. C'est pas du tout ça. Et donc, c'est quand même quelque chose qui m'a pas mal... influencé et pas mal marqué, et qu'avec le recul, je trouve pas ça cool du tout, parce que ça réduit, plus que ça ouvre les perspectives, ça réduit la manière dont on considère ce que ça veut dire d'être une fille, ce que ça veut dire d'être une femme, etc. Et du coup, pour contrebalancer, toujours avec cette idée d'Hermione, qui était quand même un des personnages... les plus proches, on va dire, de moi, dans laquelle je pouvais me projeter, un truc un peu plus positif et qui se retrouvait beaucoup, beaucoup, je trouve, dans les années 2000, dans plein d'autres personnages qu'Hermione, c'est le smarty school, donc le fait d'être intelligente pour une fille, que ça devenait quelque chose de plutôt positif et d'avoir beaucoup... On était quand même dans une époque de girl power, quand même.
Ouais.
Alors, à certaines conditions, hein, c'était quand même réduit, c'était... très, très, très majoritairement pour des femmes blanches, minces et dans des canons de beauté plutôt traditionnels. Hein, faut pas non plus exagérer sur... Mais c'était quand même un premier pas dans le girl power, quoi. Et donc, ça a quand même donnait beaucoup de modèles féminins. Enfin, je veux dire, Charmed, même s'il y a des gros clichés dans Charmed, c'était quand même... Buffy, enfin, il y avait quand même, c'était quand même beaucoup de personnages puissants qui sont intelligentes et qui sont badass, quoi, qui se battent, relativement indépendantes, même s'il y a toujours des hommes qui leur tournent autour.
Oui, bah tout le temps, mais oui, c'est mais sûr. Plus moins que effectivement avant. Ouais.
Et du coup, ça a été quand même quelque chose de positif, je trouve.
Ouais.
Qui reste un trope, c'est un truc qui est venu un peu. Pas un cliché, parce que c'est pas vraiment, c'est un trope plutôt positif, mais ça reste quand même important, quoi.
Non, je suis d'accord. Typiquement, comme exemple, moi j'ai eu ma phase, j'adore la lecture grâce à Gilmore Girls, puisque Rory, justement, lisait beaucoup, beaucoup de livres, et on en parlait avant, ce côté, on voulait les ressembler, on voulait être comme eux. Bah, quand je m'asseyais sur un banc dans un parc en train de lire un livre, j'avais l'impression d'être Rory, quoi. Et bon, j'aimais la lecture, hein, donc je le faisais quand même avec plaisir, c'était pas le supplice en me disant, oh, je suis comme elle, mais ça me saoule. J'aimais ça, mais c'est vrai, ce côté, j'avais moins peur. On me juge, je me disais pas, oh, on va la juger, elle est en train de lire un livre, elle est assise toute seule, elle a pas d'amis. Grâce à ces films, ces séries, effectivement, c'était plus un problème en fait d'être intelligente, d'être seule, d'être indépendante. Et moi aussi, enfin, grâce à ces séries-là, j'ai voulu être badass, intelligente. Typiquement, Jessica Alba dans Dark Angel, c'était exactement ça, quoi. Et je voulais vraiment être elle. J'ai la regardé avec des étoiles dans les yeux. Et je pensais à une autre, dans un film, une autre femme. Et je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt, parce que pareil, j'étais complètement obsédée par ce film que j'avais en DVD et que je regardais en boucle. C'est Legally Blonde, La Revanche d'une Blonde. Et du coup, et moi, oui. J'étais complètement fan de Elle Woods, qui paraît être la blonde cruche nunuche, ouais. Et qui, en fait, est super fort. Et alors, la scène où elle envoie balader son ex qui l'avait quittée en disant qu'il voulait être avec quelqu'un d'intelligent, et quand elle le renvoie balader à la fin, mais ça, il y a un côté satisfaisant. Et ce film, moi, je l'ai regardé des dizaines, des vingtaines de fois. Et effectivement, je trouve que c'était un super modèle pour les adolescentes qu'on était, quoi.
Ah, c'était un film que tu m'avais fait découvrir, je me souviens très bien. Et c'est vrai que ça a été assez marquant pour moi, parce que là, pour le coup, ça cassait ce côté « not like the other girls » dont je parlais avant. Et ça permet de se réconcilier un peu aussi, justement, avec le fait de concilier une féminité très assumée et en même temps d'être capable et de jouer avec l'image qu'ont les autres de soi, etc. C'est quand même assez, assez présent. Et j'avais pensé à un truc qui m'a fait rire en fait quand j'y pensais, parce que je n'avais pas forcément fait le lien. Mais pour reparler de Star Wars, parce que mine de rien, des fois, la fantaisie, ça permet d'avoir des trucs qui sortent un peu de... C'est pas parce que c'est de la fantasy qu'il n'y a pas les tropes contemporains, hein, pas du tout. Mais je me souviens, moi, le personnage de Luke Skywalker, m'a été hyper... alors, dès gamine, mais encore plus, il est revenu important dans mon adolescence, quand je revoyais, pendant l'adolescence, la trilogie originelle. Et là, on se dit, mais... jusque-là, on a parlé de personnages féminins, parce que c'est vrai que sinon, c'était Hermione, peut-être Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, voilà. Et non, moi, c'était Luke Skywalker. Et du coup, c'était autour du fait d'être un Jedi. Et en fait, ça m'a fait réaliser des choses assez jeunes, en discutant avec d'autres, genre, mais ouais, est-ce que vous voulez être un Jedi? Ouais, carrément. L'autre, ah ouais, non, quand même, être un Jedi, ça il y a des contraintes qui sont trop fortes. Puis évidemment, la prélogie, elle les met en avant avec Anakin, etc. Et moi, du coup, je ne voyais pas du tout le problème de fait que les Jedi devaient... alors, pas avoir d'attachement, parce que pour le coup, Luke, c'est l'inverse. Luke, c'est un Jedi et il ne renonce pas à ses attachements à sa sœur, à ses amis, etc., aux gens qui l'aiment. Mais de renoncer à... une vie amoureuse, de renoncer... On avait l'impression qu'ils devaient renoncer à leur sexualité, même si en vrai, ça, rien ne dit ça. Et du coup, j'étais genre, je vois pas le problème. Je pense que c'était un tout petit indice de mon asexualité que je m'en suis rendu compte beaucoup, beaucoup plus tard. Mais tout ça pour dire que quand même, il y avait, à part les Jedi, il y avait quand même très, très, très peu de représentations autres que hétéro allonormé, donc le fait qu'il fallait être en couple, etc. Et que c'est vrai que pour une ado qui n'était pas dans cette norme et qui s'y retrouvait pas, ce poids, ça m'a quand même donné l'impression d'être une alien pendant pendant toute l'adolescence, quoi.
Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on les conseillerait, ces séries dont on était obsédé, à des ados de cette génération ?
Ça dépend quoi. Je pense que j'ai aucun problème à conseiller Seigneur des Anneaux des adolescents d'aujourd'hui.
Harry Potter non plus, en vrai.
Harry Potter non plus, mais avec quand même un regard critique. Enfin, il ne faut pas hésiter à avoir un regard critique quand on regarde Harry Potter. Il y a quand même des choses qui sont marquées années 90, années 2000 et qu'il faut remettre en cause et dans lequel il faut moins se projeter. Mais après, il ne faut pas se limiter à ça. Je trouve que c'est ça l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses et que ce contenu, il était parfait pour nous à cette époque-là, enfin, il était plus ou moins parfait pour nous à cette époque-là, mais pour des jeunes d'aujourd'hui, ils sont trop limitants. Et donc, je ne serais pas du tout dans l'idée de dire ce qui est fait pour les jeunes ou que c'est mieux ce qu'on avait à notre époque que ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Vraiment pas.
Donc, oui, non, mais... je suis d'accord. je te rejoins. Moi, c'est vrai que toutes les séries que j'ai citées, je pourrais les recommander parce que, comme j'ai dit, en Roswell, par exemple, il n'y a pas vraiment de problème. Ça reste très moderne, mais c'est pas... Là où, par exemple, j'aime beaucoup la série Friends, que je regarde avec plaisir quand elle repasse à la télé, mais à chaque fois, je tic, il y a des petites phrases qui me dérangent quand ils se moquent des cheveux des cheveux frisés de Monica ou du fait qu'elle était obèse. Je suis quand même hyper, hyper mal à l'aise. Et donc, effectivement, si je la conseille, je la conseillerais sûrement à des ados parce qu'elle est quand même très bien, cette série, mais je dirais, attention, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Là, dans celle que j'ai parlé, pour l'instant, je n'ai pas l'impression, peut-être quand, si je les revois, qu'il y ait ce genre de problème. Mais effectivement, comme tu dis, il y a quand même des tropes dont on a parlé qui font qu'il faudrait qu'ils voient d'autres choses. Mais il y a tellement d'autres contenus qu'ils voient forcément d'autres choses, hein, les ados de nos jours. Après, au niveau des films, là, quand j'ai parlé de Fashion Victim et Coyote Girls, je trouve que ce n'est pas forcément des très bons modèles. C'est un peu problématique. L'Alabama dans Fashion Victim, n'en parlons pas. Mais il y a des petits trucs qui ne me vont pas trop. Donc, je ne les conseillerais pas forcément. Mais ça reste quand même des films que... qu'on peut voir de nos jours. Mais je voulais profiter juste du coup de cette petite partie pour revenir sur un point, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent. Enfin, si ma maman écoute cet épisode, par exemple, elle va me dire « Mais je comprends pas, elle a pas parlé de « Autant on emporte le vent ». C'était effectivement mon obsession depuis que j'ai 10 ans. Je le regardais tous les Noëls en boucle. Ce film m'a bercé vraiment mon enfance. J'en étais totalement, totalement accro. J'ai choisi volontairement de ne pas en parler dans cet épisode parce que il y a quand même des choses qui ne vont pas dans ce film. Je rappelle que donc ça se passe dans le sud de l'Amérique, juste pendant la guerre de sécession. Et on est du côté justement des gens du sud qui sont pour l'esclavage, par exemple. Et effectivement, on y voit des personnes noires qui sont très contentes d'être domestique, d'être esclave, et c'est une très très mauvaise représentation, et je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. Donc j'ai choisi de pas en parler au fur et à mesure de cet épisode, parce que c'est pas un film que je recommande. Moi, c'est effectivement un film qui m'a bercé, c'est un des films que j'adore, mais j'avais pas envie d'en faire l'éloge aujourd'hui. Je trouvais que c'était pas l'épisode pour. Peut-être un épisode pour en parler et expliquer ce qui va et ce qui ne va pas dans ce film, mais parce qu'il y a quand même plein d'anecdotes derrière qui s'est passé. C'est aussi la première, si je ne me trompe pas, actrice noire qui a eu un Oscar pour un second rôle. Donc, il y a quand même de l'avancée grâce à ce film. Je suis en train de lire actuellement d'ailleurs un livre sur les coulisses du film. Donc, peut-être qu'un jour, on fera un épisode dessus où on pourra un petit peu décrypter tout ça. Ça peut être intéressant, mais j'ai trouvé que là, dans cet épisode-là, ça n'avait pas sa place. Voilà, c'était juste pour ceux qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent et qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»
Ouais, non, je pense que... moi, c'est vrai que peut-être que je les ai éliminés, les trucs que j'ai regardés et que qui sont honteux, parce que j'arrive pas à me les... à pointer des choses. Après, en vrai, comme on l'a dit, Charmed, je l'ai pas revu depuis très longtemps.
Oui, c'est vrai, moi non plus, ça se trouve...
Spontanément, je vais pas conseiller Charmed à une ado d'aujourd'hui, parce que je sais pas, il faudrait que je revoie avant, quoi. Et puis peut-être que pour la vibe, pour exactement cette même vibe de sorcellerie, de sorcière, de sororité, etc., il y a... on a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses depuis Charm, donc
bien sûr.
C'était voilà, nouveau au moment où c'est sorti. Aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver exactement cette même vibe dans plein d'autres choses.
Il y a un reboot de Charm d'ailleurs.
Il paraît, j'ai pas du tout regardé.
J'ai vu un épisode, mais j'ai pas accroché. Bah, par contre, j'ai vu le reboot de Roswell, qui est sympa. J'ai essayé d'en faire un truc un peu plus moderne. Alors, il y a des gens qui sont bisexuels, il y a un trouble à un moment donné, il y a toute une partie de Liz Parker ne devient plus Liz Parker. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais elle a des origines mexicaines, et donc son père est sans papier, donc il y a un risque qu'il se fasse déporter. Enfin, ils ont vraiment essayé de le rendre la chose de nos jours, et c'est sympa. Après, elle est sur aucune plateforme, donc j'avais un peu téléchargé illégalement, je suis désolée, les premières saisons, et je n'ai pas vu la dernière parce que c'est vrai que je ne télécharge plus du tout. Mais j'ai hâte qu'elle soit sur une plateforme parce que j'ai bien envie de la continuer à la voir parce que j'aime bien cet univers. Mais c'est vrai quoi, ils ont commencé à refaire des reboots de toutes nos séries des années 90-2000. Donc c'est peut-être ça qu'on conseillera à des ados.
Peut-être, peut-être. En attendant de voir s'il y a une nouvelle adaptation d'Harry Potter, est-ce que...
Oui, ils en parlent. Du coup, tu avais posé une question dans notre petit doc de préparation. Tu te demandais qu'est-ce qu'on retrouvait de nos obsessions d'ado dans nos goûts et habitudes d'aujourd'hui. Donc moi, je vais répondre très brièvement en un mot, l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait de la romance dans tout. Effectivement, c'est quelque chose que je retrouve les super-héros. C'est vrai que Smallville, moi maintenant, je suis toujours aussi une fan de Marvel, de DC, etc. Donc... la romance et les super-héros.
Tu sais qu'en parlant de Smallville, j'ai réalisé, mais c'était pas vraiment l'adolescence, c'était vraiment encore plus jeune. Ça faisait partie des séries qu'on regardait le soir avec ma mère, les semaines où on était que tous les trois. Il y avait Lois et Clark que j'ai beaucoup regardé. Ah
ouais. J'ai jamais vu ça par contre. Je sais qu'ils en ont fait un nouveau là.
Oui, j'ai entendu.
Qui a l'air bien, mais je sais. C'est pas sur. Enfin, ce serait sur Netflix, j'aurais déjà vu, mais là je. Je sais plus sur quoi.
Et donc j'avais vu Lois et Clark avant Smallville, donc j'étais déjà. De toute façon, Superman, ça a toujours été.
Moi aussi. Mais tu sais que c'est grâce à Smallville que j'ai regardé les Superman, parce que j'étais tellement fan de Smallville que ça devait être mon père qui m'a dit mais il faut que tu regardes les Superman, et je les ai tous vus et j'étais fan. Mais vraiment, c'était mon super héros préféré. Bon, maintenant j'ai connu Spider-Man, mais c'était mon super héros préféré. Je l'aimais trop et.
Spider-Man, c'est sorti quand? Les films, parce que moi, le premier, je l'ai beaucoup, beaucoup vu.
Je pense que c'est dans ces années-là. Hein. Ouais, t'es ado. Moi, non, j'aimais bien, mais j'étais pas accro. C'est venu beaucoup plus tard, mon goût pour Spider-Man.
Non, bah moi, du coup, la fantasy, évidemment. Mais je pense que c'est normal, l'adolescence, c'est le moment où quand même on se construit beaucoup de nos goûts, même s'il y a des choses qui peuvent arriver plus tard, les choses qu'on commence à aimer à l'adolescence, forcément, ça nous suit, quoi. Mais moi, c'est la fantasy, hein. Clairement, j'avais beaucoup de mal à m'intéresser à des choses autres que la fantasy, d'ailleurs. C'est pour ça que Charmed, ça allait, parce qu'il y avait beaucoup de choses surnaturelles dedans. Mais même à l'époque, je pense que Gilmore Girls, j'aurais eu du mal quoi, à m'y intéresser, tout simplement.
Maintenant, je te promets, je
suis sûre. Mais ça a changé. Du coup, maintenant, je peux m'impliquer dans des choses beaucoup plus variées. Mais je pense qu'à l'époque, s'il n'y avait pas un monde imaginaire ou s'il n'y avait pas un imaginaire surnaturel très, très présent, j'avais du mal à accrocher.
Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre épisode. Je ne sais pas si ça va plaire aux auditeurs, mais moi, j'ai vraiment kiffé faire ce petit retour en arrière et analyser un petit peu tous ces contenus dont on était fan, obsédé, adolescente. Donc,
j'espère que ça va vous replonger dans des souvenirs aussi. Peut-être qu'il y a des choses qu'on partage. Peut-être que ça va vous rappeler que vous avez regardé... Il y avait autre chose complètement qui a occupé votre adolescence, peut-être parce que vous n'êtes peut-être pas exactement le même âge que nous, ou parce que vous avez eu d'autres obsessions. Et donc, n'hésitez pas à les partager, parce qu'on aime bien parler de nos passions de jeunesse et qui nous ont poursuivis plus ou moins.
Ouais. Donc vous pouvez nous retrouver à plein d'endroits.
Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Twitter, @poptepodcast. Vous pouvez sur Thread aussi, l'espèce de Twitter d'Insta. Je suis dessus. J'essaye de faire un peu les deux. Je ne comprends pas tout, mais voilà. vous pouvez également nous rejoindre sur notre Discord, Popcorn Therapy. Donc, les infos sont dans la description. Mais vous pouvez également, moi, me rejoindre sur le Discord des Labettes. Parce que c'est vrai que même si on a rejoint le label, on a tenu quand même à garder notre petit Discord avec notre petite communauté. Mais moi, je suis sur les deux et je parle beaucoup sur les deux. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez nous retrouver également sur Patreon. Donc, on en a parlé. Alors, pareil, le lien sera dans la description de l'épisode. Et donc, on va présenter en Patreon, donc pour ceux qui donnent un peu d'argent pour le label. Donc, on rappelle, hein, il y a dessus le podcast Rien que d'y penser, le podcast La Disney Magic Box, le podcast, je vais essayer de faire tout de tête, le podcast Les Capsules d'Ultros, le podcast Fol Animé ou Flan qui parle de films d'animation, le podcast Storybook Nist, j'arrive pas à le prononcer, qui parle de lecture, de livres, qui est très intéressant, là, qui est tout récent, le site internet Secret Disney, le site internet Musicland, le site internet, le blog d'Aldeia. Je crois que j'ai rien oublié. J'aurais dû me faire la liste, hein. Je suis trop bête.
Je suis témoin, elle a fait tout ça de tête. Hein, donc, si c'est complet, bravo.
Ouais, je suis désolée. Si j'en ai oublié vraiment. En tout cas, voilà, vous avez compris, il y a plein de choses sur le label. Et donc, pour ceux qui participent au Patreon de Elabette, on a décidé de faire des petites interviews de personnes. Donc, pour l'instant, du personne du label, mais je pense qu'on pourra l'étendre après si ça marche bien, enfin, si ça plaît. Des petites interviews, voilà, avec des petites questions. Quel est votre film préféré? Quelle est votre série préférée? Quelle est justement votre obsession d'adolescent? Et donc, voilà, on va sortir ça, je pense, dans pas très longtemps, le temps qu'on mette tout ça en place et que les personnes interviewées soient disponibles en même temps que nous. Donc, n'hésitez pas à partager si vous voulez ces petits contenus en plus.
Et puis, un grand merci à tous les Patreons et patronnes qui participent déjà à tout ça. Vous pouvez aussi nous retrouver de temps en temps sur les lives Twitch du label et la bête, puisqu'on participe l'une et l'autre quand on peut sur certaines des émissions régulières du label.
Et les replays sont dispo sur YouTube, donc pour ceux qui sont arrivés trop tard et qui se disent « Oh, mais elles ont fait des lives !» Oui, donc vous pouvez les retrouver déjà. Marjo a fait un super live hyper intéressant avec Pauline, Nagla, je crois qu'il y avait Pierre aussi, de tête, sur les Oscars.
Ouais, donc un débrief bien à froid des Oscars.
Donc c'est dispo sur la chaîne Et la Bête YouTube. Moi, j'ai assisté à plusieurs Et l'Apéro qui parlent des parcs d'attractions, des lives Star Wars également, parce que grosse fan Star Wars, hein, bien sûr.
Bientôt,
Alors,
j'attends mon heure.
Marjo est dégoûtée parce qu'on a fait deux lives Star Wars, dont un où on a parlé de The Bad Batch. Et où on a un peu taillé The Bad Batch. Et Marjo adore. Et du coup, il était là. Oui. Je veux ma revanche. Je veux en parler. Je veux lui dire du bien de cette série. Donc, on lui a promis que le prochain live, il fallait qu'elle soit là pour pouvoir défendre cette série. Enfin, voilà. Et ce soir, on fait un live. Non, demain soir, à l'heure où on enregistre.
Il sera déjà sorti.
Il sera déjà sorti depuis très longtemps. Mais si vous êtes intéressé par les jeux de rôle, pareil, chaîne YouTube Et la Bête, vous pourrez voir cette rediff de Marjo et moi qui nous ridiculisons. Enfin, surtout moi qui me ridiculise dans un jeu de rôle, puisque je ne sais même pas ce qu'est un jeu de rôle. Mais j'ai trouvé ça trop fun. Et merci à Pika de nous accepter sur ce live. Ça va être rigolo. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir et toutes de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un épisode, j'ai envie de dire mystère, puisque je n'ai plus aucune idée de quoi on va parler.
Si, ça va être lié à l'actualité cinéma, mais on ne vous en dit pas plus.
Ah oui, c'est vrai, je me rappelle maintenant.
Mais ce n'est pas sur des films récents. Bref, mystère, indice, actualité, mais pas film récent, devinez.
Ouais, bien, à plus tard et merci encore.
À bientôt. J'entends.
C'est Alors, c'est pas chez nous. C'est pas notre bébé. C'est pas notre bébé, mais je crois que c'est les voisins du dessous.
Eh bien.
Parce qu'il fait très chaud, on a ouvert la fenêtre.
Ah, d'accord. Moi, je me dis, c'est pas possible.
Non, 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 c'est pas notre bébé. Attends, je vais aller fermer. Ah, il crie bien, dis donc, ce bébé-là. C'est quoi ? Tu penses que c'est notre bébé ? Je vais aller voir. Et fermer la fenêtre. Ce n'est pas notre bébé. Il est immobile, en train de dormir bien profondément.
Parfait.
J'ai essayé de voir s'il respirait. Il est touché. Il n'a pas bougé d'une...